Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC.
Christian Pesset,
oui.
On va attaquer maintenant notre dossier de ce samedi. Comment relancer les travaux pour la maison après le confinement?
Voilà, parce que beaucoup de chantiers ont été interrompus, des chantiers évidemment de construction, mais aussi des chantiers de rénovation, ou bien des chantiers qui auraient dû commencer il y a un mois et qui évidemment ont été mis en panne. Nous avons avec nous Jacques Chanu, qui est président de la Fédération française du bâtiment. Bonjour, monsieur le président.
Bonjour. Bonjour à tous les deux.
Très bien. Alors, Jacques Chanu, vous avez été en première ligne sur les difficultés justement de ce monde de la construction. Les chantiers maintenant peuvent repartir. On va être sorti du confinement. Plus rien véritablement ne se pose à la relance.
Les chantiers pouvaient même repartir avant, oui. Mais ce qui s'oppose à la relance lundi comme hier, ben ça reste la confiance chez les particuliers. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réinstaure un climat de confiance, oui. Et de sécurité entre le client et le compagnon ou l'artisan qui vient chez lui. C'est tout bête, hein, mais c'est ça qui est important.
Tout à fait. Alors, il y a des questions concrètes que les gens se posent. Moi, j'ai eu pas mal de demandes, je reçois des mails. Est-ce que, par exemple, lorsque une entreprise va venir chez vous, est-ce que d'un côté comme de l'autre, il faut, par exemple, une espèce de certificat médical pour dire que vous n'êtes pas contagieux? Non, quand même pas.
Non, on n'en est pas là. Mais d'abord, on serait bien, à mon avis... Ça serait bien difficile d'avoir des certificats parce que j'ai vu la difficulté d'avoir des tests et je vois pas comment on pourrait avoir des certificats. Non, par contre, du côté de l'entreprise, il y a des questionnaires qui tous les matins sont faits auprès des compagnons. Voilà, des questionnaires assez classiques sur l'état de santé qui pourraient révéler qu'il y a un début d'eux. Et ben, on demande en fait la même chose aux clients. C'est-à-dire que je pense qu'il doit avoir un esprit de responsabilité des deux côtés, de se dire que si on a le moindre doute, le moindre soupçon sur un départ de maladie,
de COVID,
il vaut mieux s'abstenir d'un côté ou de l'autre. Je crois honnêtement, hein, au-delà de toutes les mesures qui peuvent être imposées ou recommandées, je crois que c'est surtout un comportement de bon sens qui est nécessaire, encore une fois, des deux côtés.
Est-ce qu'il faut mettre à disposition un certain nombre d'éléments à disposition de ceux qui vont intervenir? Je sais pas, je pense, est-ce qu'il faut leur donner la possibilité d'aller se laver les mains, d'avoir du gel, d'avoir pourquoi pas des gants, je sais pas. Est-ce que les masques, qui fournit ça? C'est pas le client, c'est l'entreprise.
Tous les équipements individuels, c'est bien sûr à l'entreprise de les fournir. Par contre, l'eau sur le chantier, hein, chez le particulier, c'est quelque chose d'important parce que la meilleure des choses, c'est de se laver les mains, on le sait bien, mais il faut qu'il y ait un accès, il faut qu'il y ait un point d'eau et du savon et des serviettes jetables, hein, à usage unique, qui permettent aux ouvriers de se laver les mains. Mais vous savez, dans cette période de crise sanitaire, comme d'habitude, donc il est important d'avoir de l'eau sur les chantiers pour se laver les mains. Mmh. Donc voilà, mais je pense que vraiment, ce qui reste très important dans l'échange, hein, c'est la distanciation physique. Ce qui est essentiel, c'est au-delà de la contamination, pour y revenir, c'est que chacun puisse travailler avec la distanciation physique suffisante.
Ça veut dire, est-ce qu'il faut, par exemple, éviter les contacts? Est-ce qu'il faut interdire un peu le chantier? Dans une maison, c'est pas toujours simple. Il y a monsieur, il y a madame, il y a les enfants, il y a les animaux domestiques.
J'imagine qu'il y a des tâches aussi où on est obligatoirement proche l'un de l'autre, non?
Non, avec le client, non.
Mais entre ouvriers.
Ah ben, entre ouvriers, oui. C'est pour ça qu'on a fait un guide, hein, qui permet de savoir quel type de comportement, quel équipement avoir, si on est à moins d'un mètre l'un de l'autre. Mais ça, c'est le sujet de l'entreprise.
Oui.
Ce qui est important aussi de comprendre, c'est vis-à-vis du client. Il faut que le client, effectivement, j'allais dire, laisse faire le travail par les gars, et puis lui-même se protège, se retire.
Et je pense qu'il faut vraiment là, conseiller la prudence au particulier qui fait intervenir une entreprise, parce qu'il faut bien le dire. Très souvent, excusez-moi l'expression, mais on emmerde les gars qui sont en train de bosser sur le chantier, hein, faut le dire. On est dans les pattes, on vient voir, on regarde. C'est du vécu, quoi. Hein, non, mais c'est vrai. Donc, il faut vraiment, là, s'abstenir d'être sur le chantier, quoi.
Ouais, je pense que l'échange peut être possible, bien sûr, et même indispensable. On n'est pas obligé d'être à moins d'un mètre. Donc, voilà, encore une fois, vous savez, ce qui est recommandé dans la vie de tous les jours désormais, sur cette fameuse distanciation physique, il faut qu'elle soit même à l'intérieur de l'appartement, à l'intérieur de la maison, il faut qu'elle soit respectée parce que la maison, l'appartement ne protège en rien, bien évidemment.
Et alors là, tout le monde porte des masques, là,
alors,
dans le relationnel. Hein,
c'est-à-dire que pour porter un masque lorsqu'il n'y a personne autour, honnêtement, ça n'a pas d'intérêt particulier.
Oui.
Alors, évidemment, il y a des préconisations très particulières lorsque vous intervenez chez quelqu'un qui est malade.
Là,
on ne parle pas du tout de même chose. Là, il faut un masque FFP2 pour pouvoir intervenir, que le client lui-même porte à minima un masque chirurgical et autres. Alors là, on parle d'intervention urgente, bien sûr. Hein. C'est lorsque vous devez intervenir parce que, je ne sais pas, un ballon d'eau chaude est caché chez quelqu'un qui est malade du Covid ou qui a un soupçon de Covid. Bien évidemment, il faut quand même intervenir hein, parce que c'est important pour lui. Mais par contre, là, alors, les préconisations ne sont pas du tout les mêmes.
Oui.
Mais encore une fois, je crois que là aussi, il faut faire...
question de bon sens, évidemment.
Quand vous êtes malade et que ce n'est pas des travaux urgents, il vaut mieux les décaler.
Ouais. Voilà, alors, j'ai vu, parce qu'évidemment, il circule plein de choses sur Internet, des bonnes et des moins bonnes. J'ai vu quelqu'un, une structure qui disait de protéger, par exemple, avec du film alimentaire, les rampes, les poignées de porte, etc. Est-ce que c'est excessif ou est-ce que ça peut être une bonne précaution?
Enfin, écoutez, comme c'est toujours le même problème, il y a des avantages et des inconvénients. Je crois qu'il faut surtout, c'est bien désinfecter à chaque fois que le gars part en fin de journée, désinfecter les surfaces de contact principales, c'est-à-dire en gros les poignées de porte, effectivement les rampes, les lunettes de WC, enfin bon voilà, les lunettes de WC, bref.
Le robinet, par exemple.
Le robinet, des choses comme ça. Mais je pense qu'il faut que j'y ait des réflexes qui s'installent, et encore une fois, des réflexes des deux côtés. Ce qui est important, c'est la confiance entre le client et la personne qui intervient chez lui. Il lui fait confiance, puisqu'il l'a choisi pour refaire techniquement un certain nombre de choses, mais il faut qu'il y ait la même confiance, j'allais dire, sanitaire, qui s'installe entre la personne qui travaille et le client.
Jacques, Christian, on a Jean qui nous a appelé au 3216 et qui a une question. Bonjour Jean.
Oui, bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue Jean sur RMC.
Oui, alors je dois réceptionner un appartement qui était prévu fin juin, mais bon, comme il y a eu un arrêt de à peu près un mois, deux mois, là, c'est reporté sans doute après les vacances, comment ça va se passer la réception? Parce que là, on a un contact avec la personne, on va rentrer dans un appartement qui est neuf, mais qui a été, où il y a pas mal de personnes qui ont travaillé à l'intérieur, est-ce qu'il faut prévoir de le désinfecter? On parlait de poignées de porte, choses comme ça,
Une très bonne question, et c'est génial parce que vous avez devancé celle que justement j'allais poser.
Formidable.
C'est en vous écoutant ce matin, j'ai pensé à ça, j'ai dit tiens, je vais passer un petit coup de pied.
Vous devriez réceptionner votre appartement, vous ne savez pas encore quand, parce que j'imagine que tout a été retardé, c'est ce que vous disiez.
C'était prévu fin juin, donc je pense qu'il y aura au moins deux mois après les vacances.
Oui, certainement. D'accord. Jacques Chanu, qu'est-ce qu'on peut dire sur justement les précautions lors de la réception?
Là, il faut changer tout un process, non, j'imagine?
C'est-à-dire qu'il faut aussi se rappeler que le virus, il ne reste pas installé pendant 15 jours. Hein. On sait bien tous, on voit bien qu'on nous dit qu'il faut laisser les courses dehors et autres. Donc il y a des process qui là aussi doivent exister, qu'on doit très bien aérer avant la réception, pendant sans doute plusieurs heures le logement en question. Et puis après, c'est encore une fois que les surfaces de contact où il faut effectivement avant la réception essayer de nettoyer. L'appartement neuf, c'est pas là où ça nous inquiète le plus, parce qu'il est forcément nettoyé avant la réception.
Oui.
Donc voilà.
C'est plus la réception des chantiers de rénovation, quoi.
Oui, mais par contre, il est clair que là aussi, hein, je pense que s'il y a des habitudes qu'il va falloir prendre, sur la distanciation physique. Voilà, c'est bon et sympa, hein, on est tous conscients de ça, hein, surtout dans notre secteur où les gens sont plutôt chaleureux. Mais bah, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec pendant un certain temps, pour se protéger, mais surtout pour protéger les autres. Mais honnêtement, dans le neuf, ça nous inquiète beaucoup moins en termes de réception qu'évidemment des travaux dans l'ancien.
Très bien, merci Jacques Chanu pour tous ces bons conseils. Je rappelle, vous êtes président de la Fédération française du bâtiment.
Merci beaucoup. Alors, intéressante cette question, Jean, hein, sur la réception des appartements. J'imagine qu'il y a pas mal d'auditeurs qui sont dans cette situation aussi.
Très bien. Nous avons avec nous maintenant Roland Bouquet. Bonjour.
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 Bonjour Roland. Vous êtes vice-président, vous, du SINASAV. C'est le syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique. Autrement dit, c'est les personnels de maintenance, on peut dire, des systèmes de chauffage, de ventilation et de clim.
C'est bien ça, oui, tout à fait.
Donc, alors, pourquoi je vous ai demandé d'intervenir ? Parce que là aussi, j'ai reçu un certain nombre de questions et d'inquiétudes au moment où on va remettre en marche, avec le beau temps, notamment les systèmes de climatisation. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter de la possible contamination par justement les systèmes alors de clim, mais aussi de ventilation ? Et au moment où on va les relancer peut-être, je parle de la clim, est-ce qu'il faut les désinfecter ? Quelle est votre préconisation là-dessus ?
Alors la réponse est non, Christian. En fait, selon le Haut Conseil de la Santé publique et aussi de l'OMS, toutes les études menées à ce jour indiquent que le virus est principalement transmissible par contact avec des gouttelettes respiratoires.
Mais on a entendu, on a entendu parfois des interrogations parce que plus on avance et plus on entend que les gens disent qu'ils savent rien, y compris les grands spécialistes. Alors, donc il y a peut-être une précaution à prendre de toute façon.
On sait quand même que le virus se transmet principalement en portant des mains contaminées aux muqueuses, hein, comme le nez, la bouche et les yeux. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune étude fiable sur une contamination par voie aérienne.
D'accord, alors si malgré tout...
Donc à ce jour, pas de contre-indication à maintenir seulement les installations de climatisation. Okay. Bien au contraire, elles permettent, si elles sont entretenues, de conserver une bonne qualité d'air intérieur.
Alors bon, il y a l'entretien classique qu'on va pouvoir demander. Mais est-ce que si je suis vraiment pointilleux et inquiet, est-ce que je peux demander à ce qu'on désinfecte, par exemple, mes filtres ou mes pales de ventilateur de la clim ou de la VMC?
Oui, aujourd'hui, il existe des produits nettoyants et désinfectants que les professionnels utilisent. Alors, ce sont des produits, on va dire, 3 en 1, qui répondent aux normes fongicides, bactéricides et virucides.
Oui.
Donc, une fois par an, un entretien conforme, je dirais, aux règles de l'art, est à réaliser par un professionnel.
Et ça, pour toutes les clims, Roland, excusez-moi.
Oui.
Pour toutes les climatisations, à partir du moment où on a un système de climatisation, tous les ans, il faut faire cette opération.
L'obligation, elle est légale, il y en a une, c'est tous les 2 ans, non ? Je me trompe ?
Alors aujourd'hui, nous attendons le décret, hein, qui devrait paraître début juillet.
Et jusqu'à présent, il n'y en avait pas.
Il n'y en avait pas, mais par contre, à partir du 1er juillet, on devra donc entretenir ces climatisations une fois tous les 2 ans.
Alors attendez Roland, c'est une opération complexe qui nécessite le déplacement d'un spécialiste ou alors on peut le faire ?
Je pense que dans le cadre de la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, il est préférable d'appeler un professionnel qui puisse se charger de nettoyer donc éventuellement la climatisation, mais sur un split de clim, par exemple, il faut nettoyer et désinfecter, comme je le disais tout à l'heure, avec un produit 3 en 1, les filtres, la batterie et le bac à condensat.
Oui. Le bac à condensat, c'est le petit bac qui récupère l'eau qui résulte de la condensation. Hein,
ça s'appelle la batterie.
D'accord. Ça ne sert à rien de pulvériser tout ça de gel hydroalcoolique.
Ah non. Pas du tout. Le produit utilisé est un produit qui se met sur le filtre et sur la batterie.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une différence ? Alors là, je vais passer à la VMC. Est-ce qu'il y a une différence entre une simple flux qui puise l'air à l'extérieur et qui le rejette tout simplement, et une double flux qui, elle, fonctionne finalement un peu en circuit fermé
et redistribue l'air.
Voilà. Est-ce qu'il y a une différence là-dessus ? Est-ce qu'il y a plus d'inquiétude ? Parce qu'on peut imaginer quelqu'un qui est contaminé chez nuit et qui donc avec peut-être une VMC simple flux, les choses partent à l'extérieur. Avec une VMC double flux, on est plus en confinement, non ?
Alors c'est une très bonne question. Écoutez, on retrouve deux types de VMC en France. La majorité des VMC sont des VMC simple flux, classiques, hein, que l'on retrouve dans les logements. Le risque de contamination est d'autant plus limité que l'habitation se trouve en dépression. Voilà. Alors, par contre, l'occupant doit s'assurer que sa VMC fonctionne. Alors, avec un test simple, vous le connaissez, le test de la feuille de papier devant la bouche d'aspiration.
Absolument.
Et vérifier que ses entrées d'air, hein, bien sûr, ne soient pas obturées et les déboucher ou les nettoyer le cas échéant.
Alors, attendez deux secondes. Rappelons, une VMC simple flux, on a une aspiration dans le grenier, on a des bouches dans les pièces, on va dire, humides, la salle de bain, la cuisine, les toilettes, et puis on puise l'air extérieur par des grilles de ventilation, c'est ça. Ça, c'est le plus simple.
Hein. Voilà.
Mais la VMC double flux, en revanche, là, il n'y a pas d'entrée d'air dans les fenêtres, par exemple. On a donc un groupe dans le grenier qui aspire l'air à l'extérieur, qui le fait circuler dans la maison et qui le récupère pour le rejeter à l'extérieur avec, entre les deux, un échangeur thermique. Hein, on peut dire ça ?
C'est ça, voilà. On a un échange thermique entre l'air qui rentre dans le logement et l'air qui sort, donc de manière à réchauffer notre air qui rentre, notre air frais. Alors, en plus... Pour une VMC double flux, la différence avec une simple flux, c'est qu'on a des filtres. Et là, on revient sur le système de la climatisation. Ce sont des filtres qui sont à nettoyer ou à remplacer périodiquement, selon bien sûr les préconisations du fabricant.
Voilà. Mais si on a par exemple été malade soi-même du Covid-19, on peut avoir intérêt à demander une désinfection de ces filtres avec les produits dont vous parliez tout à l'heure.
Bien sûr, bien sûr.
Mais ça, c'est conseillé ou finalement ça ne servirait pas à grand-chose?
Non, c'est vraiment conseillé. Il faut le faire, il faut appeler un professionnel. Si en plus vous avez effectivement été malade, il faut venir désinfecter votre système de VMC et de clim.
Ouais. Alors ceci étant, si après avoir désinfecté, il y a à nouveau quelqu'un qui rentre avec le Covid-19, tout est à recommencer.
Oui.
Encore une fois, toutes les études montrent que ce virus ne se transmet pas par voie aérienne. Hein, voilà. Mais ce sont des gouttelettes respiratoires.
Ah. On est d'accord aussi qu'il faut laisser fonctionner ces VMC, parce que moi j'ai des gens qui m'ont envoyé des mails en disant est-ce que je dois arrêter ma VMC pour éviter une contamination qui vient de l'extérieur. On est d'accord qu'il faut le laisser, et même ouvrir ses fenêtres. Il y a même une recommandation qui a été faite d'ouvrir ses fenêtres pour ventiler plusieurs fois par jour.
Bien sûr, alors comme je le disais tout à l'heure, il faut assurer un renouvellement d'air avec de l'air frais qui rentre dans le logement, donc laissez bien vos VMC fonctionner.
D'accord. Entendu. Comment trouver un technicien? En allant sur votre site, sur le site du CINASAV, il y a des adresses de pros?
Eh bien, c'est ça. On peut s'adresser donc aux entreprises spécialisées en maintenance des équipements, comme celle adhérente du CINASAV. Alors, vous retrouverez un annuaire des professionnels
par
département disponible sur le site www.cinasav.fr.
Et CINASAV, ça s'écrit SYNASAV.
Voilà. Tout à fait. Et j'aimerais souligner aussi, comme nous intervenons chez les particuliers, à ce titre, donc le CINASAV est à l'origine d'une initiative remarquable, c'est-à-dire d'une commande groupée de plus de 700 000 masques FFP2. Ses adhérents, bien sûr, afin de protéger les clients et les techniciens lors des interventions au domicile des particuliers.
Très bien. Merci Roland Bouquet.
Merci Roland Bouquet. Vous êtes
Merci
donc vice-président du CINASAV.
Alors, RMC,
jusqu'à 8h,
votre maison, François Sorel,
Christian Pessé.
Voilà, 7h47, on est de retour. Merci de nous rejoindre sur RMC, c'est le week-end des experts. Je vous rappelle que tout à l'heure, entre 8 et 9, Christian Riquet sera là pour notre rendez-vous Forme Santé. On fera un point, évidemment, sur la situation Covid-19 en France cette semaine. Et puis, on s'intéressera à notre poids. Le confinement nous a fait prendre du poids, Christian. Pas vous, Christian Pessé ?
Moi, j'en ai perdu.
Ah ben, bravo. Voilà.
J'en ai perdu. Le régime soupe est formidable.
Le régime soupe ?
Ouais.
Eh bien, vous savez quoi ?
Une soupe le soir.
Vous mangez qu'une soupe le soir.
Oui, mais elle est
donc
très copieuse.
Donc, pas de petit déjeuner, pas de déjeuner.
Un peu de fromage, je ne sais pas ce que nous dira Christian. Un peu de fromage, un yaourt, tout ça. Mais moi, je trouve. Et des légumes.
Une baguette, bien évidemment.
Il a perdu 2 kilos sous les orteils.
Voilà, c'est ça. C'est bien. Non, bravo, Christian. Félicitations.
Je confirme qu'il a perdu.
On retrouvera donc Christian et Kia tout à l'heure. D'ici là, vos questions maison au 32-16. Et on accueille Pierre et sa bâche mystérieuse.
Oui.
Bonjour Pierre.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Bienvenue, merci, Pierre.
Merci d'avoir pris mon appel.
Vous savez que Christian est un peu stressé avec votre question, il ne sait pas trop où il va. Alors... Donc voilà.
Je ne veux pas le stresser.
Non, ça va, on s'en sort. Hein.
J'ai la chance de vivre dans le Midi, là, dans les Alpes de Haute-Provence. Et donc j'ai une pergola de 6 mètres sur 5.
Oui, 30 mètres carrés quand même.
Oui, donc j'ai mis une bâche donc régulièrement, mais la bâche elle fuse avec les UV. Alors je voulais savoir s'il y avait un tissu spécial ou un produit spécial qui pourrait empêcher cela.
Ah, d'abord, je serais tenté de vous dire, si vous avez une pergola, pourquoi vous mettez une bâche dessus? Pour pas avoir trop de soleil.
Donc,
exactement. Bah, allez, moi je vais vous donner deux solutions. La première solution, ça serait Patrick qui pourrait vous la donner, c'est comme à l'ancienne dans le Midi, faites pousser une plante grimpante et puis ça va vous donner de l'ombrage. Alors mais bon d'accord, ça vous donnera aussi des feuilles qui tomberont, mais c'est peut-être pas dramatique. Et puis l'autre solution, c'est qu'on n'utilise pas une bâche, c'est que il faut que vous fassiez l'acquisition de toiles de store, c'est-à-dire une toile de store. Par exemple, j'évoquais tout à l'heure le Nec Plus Ultra aujourd'hui, c'est de la toile micro perforée. En général, c'est deux supports plastiques avec des très petites perforations qui me permettent donc une ventilation relative en sous-face et qui évite donc la surchauffe. Mais je pense que vous n'avez pas d'autres solutions que de passer à une toile de store, quoi, tout simplement.
D'accord.
Bah oui.
D'accord.
Hein,
ça existe dans toutes les dimensions.
Ça existe dans... Alors là, ça vous fait 4 mètres, vous me dites, en largeur, c'est ça?
6 par 5.
Bah, faudra peut-être faire un raccord. Hein. Donc, une entreprise spécialisée sera capable, si c'est du plastique, par exemple, enfin, quelque chose à base de matière plastique, de matière de synthèse, c'est quelqu'un qui vous fera une soudure hein, pour avoir la surface complète. Après, bon, bah, je sais pas comment... Vous compterez la fixer, mais il y aura peut-être des anneaux à mettre en place avec un lacet.
Oui, c'est ce que je pensais avec les anneaux.
Ouais, c'est ça. Donc, bah, ça, les anneaux, c'est simple. Hein. Il faut simplement ce qui est le moins simple, c'est pas d'acheter les anneaux, c'est de trouver la machine qui permet de perforer le store et de sertir les anneaux. Parce qu'il faut que vous fassiez ça, sinon ça se déchirera. Hein, donc, il faut qu'à, je sais pas, à 4-5 cm ou 3-4-5 cm du bord, vous puissiez mettre donc des anneaux qui vous permettent de passer donc un lacet, entre guillemets.
Oui.
Et donc de bien tendre votre toile, parce que c'est ça le problème aussi, c'est que vous devez avoir, si vous utilisez une bâche non ordinaire, vous avez du déchirement, j'imagine, elle a dû se déchirer.
Voilà. Avec le vent,
un coup de mistral, et puis. On n'en parle plus, donc là, oui, vous aurez... Alors, vous pouvez aussi, il y a aussi une autre solution, mais ça, faut que vous voyez dans votre secteur, c'est de la voile de bateau, tout simplement. Hein. Voir un voilier, et donc, mais ça va vous coûter, évidemment, certainement plus cher, mais ça sera à vie. Hein.
Ça coûte cher, la voile de bateau.
Ah oui, la voile de bateau, ça coûte très cher, bien sûr.
Et oui, il faut vous dire que c'est résistant à pratiquement tout. Ouais.
Voilà.
C'est ça.
Ok.
Voilà, donc, Pierre.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Bon, ça va, vous êtes satisfait de la réponse de Christian, Pierre. Vous savez qu'on
a
un sondage satisfaction des consommateurs, donc
on va être
toujours pertinent, Pierre. Christian, super.
C'est gentil, merci.
Merci, Pierre.
Merci beaucoup. Bonne semaine à vous. Au revoir.
Voilà, au revoir. Ça s'est bien passé.
Mais bien sûr.
Stressé, là, je vous sens un peu.
Stressé.
Un peu quand même.
Ça vient un manque de confiance, là. En fait, c'est vous qui stressiez.
Pour vous, parce que je vous aime beaucoup, c'est pour ça. Sylvain est là au 32-16. Bonjour Sylvain.
Oui, bonjour messieurs.
Bonjour.
Donc, j'ai un petit souci. J'ai deux questions. On a un projet de construction dans l'heure. Donc, c'est une maison plein pied de 135 mètres carrés.
Quand vous dites dans l'heure, c'est pas tout de suite, c'est dans le département.
Oui, c'est dans le département.
D'accord.
Ouais.
Non, parce que je me suis dit, ça va être difficile là tout de suite. Pardon.
Donc, dans le vide sanitaire, on a toujours un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau, donc c'est à environ la hauteur d'un demi parpaing. Et donc, je voulais savoir quelles étaient les obligations du constructeur à ce sujet-là et les conséquences sur la construction et la maison à venir.
Alors, vous avez une étude de sol dans votre dans votre projet. Bon, il dit quoi? Il dit pas, il y a pas. Vous avez la nappe phréatique à combien?
Non, là, on est sur un plateau donc limono-calcaire, très sableux.
Oui.
Donc, il n'y a pas de couche d'argile, il n'y a pas de source. Donc, mais c'est de l'eau de pluie essentiellement. Hein.
Bon, alors, je vais vous dire une chose, c'est que le vide sanitaire, c'est fait pour ça. Le vide sanitaire, c'est-à-dire c'est sur 2, 3, 4 hauteurs de parpaing, oui. C'est un espace donc vide en dessous de votre maison qui permet de la désolidariser du sol. Alors donc ça a une double fonction, c'est celle justement de vous garantir contre les inondations, parce que si votre maison était complètement sur le sol, sans fondation, sans dalle par exemple, eh bien ça veut dire que vous auriez vos 10 cm d'eau dans la maison purement et simplement. Donc la fonction c'est d'isoler par rapport au sol, d'isoler de façon thermique aussi, et donc d'empêcher l'eau de remonter directement dans la maison. Donc c'est pas anormal, c'est pas tout à fait normal, parce que ça veut dire quand même que vous avez un problème de drainage périphérique de la maison. C'est-à-dire, est-ce que la collecte des eaux, pour l'instant d'abord, est-ce que la collecte des eaux est faite? Est-ce que les gouttières sont posées? Est-ce que les évacuations sont en place?
Non, on en est à la pose de la charpente.
Bon, attendez, vous allez bien voir, déjà d'avoir posé vos gouttières, d'avoir donc canalisé l'eau de pluie qui tombe à cet endroit-là et qui va être évacuée normalement par le réseau. Donc c'est la première des choses, ça sert à cela. L'autre intérêt, c'est que le vide sanitaire permet de passer tous les fluides, ce qu'on appelle les fluides, c'est-à-dire tous les réseaux, en dessous, et de permettre l'accès facilement aux différentes, par exemple, canalisation, d'évacuation, d'alimentation. Tous ceux qui n'ont pas de vide sanitaire savent qu'à un moment ou à un autre, ils ont été confrontés à la problématique de risquer de casser leur carrelage pour aller chercher où il y avait une fuite en dessous. Donc voilà, moi je dirais que pour l'instant, assurez-vous auprès de votre constructeur que le drainage périphérique est bien fait, d'abord que la bande d'arase a bien été mise, mais ça il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas. C'est la bande qui permet l'étanchéité des fondations par rapport au mur au-dessus, et puis voilà. Mais donc pour l'instant ne vous inquiétez pas trop, mais soyez vigilant, parce que il n'y a pas de raison non plus que de l'eau stagne en permanence dans un vide sanitaire. Il faut aussi voir comment l'évacuer.
Merci beaucoup Sylvain, et tout comme Sylvain, vous voulez joindre Christian PC, alors ce sera évidemment pour samedi prochain, puisque l'émission arrive à son terme, n'hésitez pas. Tiens, la semaine prochaine on va parler entre autres de barbecue, non,
d'après ce que on va sortir dans le jardin, s'oxygéner, on va faire des grillades, là, pas trop brûler, hein, nous dirait notre médecin.
Attendez, parce qu'à chaque fois que vous parlez de barbecue à Christian Riquia, lui aussi il a des frissons, j'ai l'impression.
Oui, mais quand c'est très bien fait, c'est excellentissime, aussi bien pour la santé que pour le goût et le plaisir. Mais tout le souci, c'est bien le faire et avoir de bons outils. Et je sais que Christian a de bons outils à vous.
Mais oui, forcément, on commentera tout ça la semaine prochaine, Christian.